des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Seille en votre compagnie à cette émission des livres plein les oreilles. Le salon du livre bat son plein. On va faire le tour des événements, si vous le voulez bien, des événements à suivre chez Vues et Voix, nouveau partenaire du salon cette année. Marie-Ève Grou va nous pointer du doigt les rendez-vous importants à suivre. Place Bonaventure. En seconde partie, je vais m'entretenir avec Patrice Coquereau, auteur et lecteur du livre « Guérir à gorge déployée ». Un bouquin où la sincérité côtoie la bienveillance, celle de bien vouloir partager notamment des heures, des jours, des années difficiles aux prises avec des crises d'anxiété inimaginables et insupportables. Alors, peut-on en guérir ? Oui, écrit Patrice Coquereau avec le verbe qu'on lui connaît. Et puis, j'ai des petites nouvelles pour vous en ce qui concerne le livre audio et surtout la lecture à haute voix pour les enfants. Un manifeste en faveur de la lecture pour les enfants va paraître et sera lancé au Salon du Livre. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un enjeu majeur dont on parlera avec l'initiatrice du manifeste, Marie Barguirdjian. Elle est auteure et consultante en littérature jeunesse et en art. Juste avant qu'on aborde l'actualité de Vues et Voix au Salon du Livre, musique.
I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. Birds in every tree are all so neighborly. They sing wherever I go. I guess I'm just a lucky so and so. If you should ask me the bank account, I'd have to confess that I'm slipping, but that don't worry me. Confidentially, I've got a dream that's a pippin, and when the day is through, each night I
Elle a été une noire sous surveillance, Ella Fitzgerald. J'en parle parce que nous allons évoquer d'ici quelques minutes un livre, un nouveau livre audio qui a été enregistré ici chez Vues et Voix et qui s'appelle Noir sous surveillance, écrit par Robin Menard. Mais avant, je voudrais me tourner vers Marie-Ève Grou. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Clotilde.
Attends, je vais enlever cette lampe qui m'empêche de te voir. Voilà. Marie-Ève, je l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines parce que c'est quand même un grand événement pour nous, pour Vues et Voix, le fait que nous sommes des nouveaux partenaires de l'actuel Salon du Livre, parce qu'il faut savoir qu'au moment où cette émission commence à être diffusée, nous sommes le 21 novembre et donc on est déjà dans le Salon du Livre. Waouh!
J'ai hâte d'y être.
Ce soir.
Oui, cette année, on est partenaire majeur pour la première fois au Salon du Livre. Uh-huh. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un kiosque standard comme on avait les autres années, les gens pourront venir nous voir à l'espace innovant Vues et Voix. C'est un kiosque qui sera, là, je ne suis pas très bonne avec les chiffres, mais j'ai le goût de dire 9 à 10 fois plus gros que ce qu'on avait d'habitude.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Bon, c'est vrai qu'on avait très petit, mais quand même.
C'est difficile de faire plus petit, mais cette année, on va du tout au tout, on va dans le grand. Là. Ça va être un espace qui je crois, va en jeter. Là.
Ouais. L'espace innovant, alors qu'est-ce qu'il va avoir d'innovant en dehors du fait que le livre audio est évidemment une autre façon en ce moment de lire ou d'écouter des livres? Mais en quoi il sera innovant?
C'est qu'il y a d'autres partenaires, en fait, des partenaires qui se sont associés à Vues et Voix pour l'espace innovant. Mm-hmm. Donc, plusieurs initiatives de lecture sur le web, dans le virtuel. Il y aura Littérature québécoise mobile qui va être là, qui est une chaire de recherche parrainée par l'UQAM. Il y aura aussi OVNI, il y aura des vélos à l'entrée où on pourra activer un livre, c'est-à-dire que pour avoir la narration, l'image et finalement l'ambiance sonore, il faudra que trois personnes pédalent en même temps. Ça devient un travail coopératif. et en plus de ça, il y aura la très très belle colonne du son. Colonne du son, en fait, vous avez sûrement en tête, bon, à la place Bonaventure, il y a des grosses colonnes de béton. Mm-hmm. On en a habillé une cette année avec des appareils qui permettent d'écouter les livres audio. Donc, wow. Il y aura des iPads et des iPhones où les gens pourront carrément essayer l'expérience livre audio, écouter les extraits, observer le catalogue et une équipe de médiation, bien sûr, qui va être là pour faire le tour.
Pour les aider aussi.
Exactement.
À savoir comment ça
Exactement.
Fonctionne. Ça, c'est une bonne idée parce qu'il y a encore énormément de gens qui se disent « c'est marrant, ça ne me viendrait pas l'idée d'écouter un livre
oui. ».
Et pourtant, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait l'expérience, il est gagné,
oui.
quasiment.
Je sais, les gens, ils ne sont fou. Plus capables de décrocher.
Non, c'est vrai.
Et moi qui suis une grande lectrice papier, je oui. n'écoute pas la même chose, en fait, en audio. Je me rends compte que j'ai des goûts différents.
Ah, c'est intéressant.
Oui, j'écoute pas la même chose.
Tu vas aller sur quoi plutôt en audio?
En audio, j'adore les biographies. Chose que j'avais jamais lue. J'étais uh-huh. jamais tombée dans la bio. J'ai beaucoup d'artistes que j'aime, mais on dirait que je me lasse de la bio. J'aime mieux le format article ou le format magazine, qui est un peu plus court. Mais là, de me faire raconter la vie de quelqu'un avec souvent des extraits d'archives, uh-huh. il y a un enrichi, je dirais, dans le livre audio qu'il n'y a pas dans le papier.
Alors, tu vas adorer Les Belles-Sœurs, dont on va reparler un petit peu plus tard. Mais là, je suis certaine aussi que tu vas adorer ce livre de Robin Ménard, Noir sous surveillance, Robin Ménard, si vous voulez que je le francise. C'est lu par l'excellente comédienne qui est noire, Mireille oui. Metellus. Pour nous, c'était important oui. Parce qu'il est évident qu'on, j'allais dire, on y célèbre. C'est pas le bon mot, mais on y raconte, on puise abondamment dans l'histoire des Noirs au Canada et au Québec.
Oui.
Et cette femme-là, avait toute la maturité, elle qui est noire, qui a du sang noir dans les veines. Et ça donne une lecture, Marie-Ève, qui est vraiment sensationnelle. C'est un livre très dense, très fouillé, énormément de recherches.
Très difficile
très
aussi,
difficile.
Comme, de par le sujet, d'ailleurs.
Oui, parce qu'on apprend des choses qui ne sont pas très glorieuses, finalement.
Oui.
Hein,
oui.
Sur notre...
Pas glorieuses, mais nécessaires, à mon sens, quand même.
Nécessaires, mais je veux dire, oui. on apprend qu'il y a eu des exactions. Oui. Qui ont été commises aussi
oui.
En sol canadien contre les Noirs. Il y en a encore,
oui, absolument.
Malheureusement.
Absolument.
Et donc, on a choisi le Salon du Livre pour lancer ce livre-là.
Ben, la thématique du Salon du Livre cette année, c'est se raconter. Mm-hmm. Et on trouvait que ça faisait beaucoup sens avec Noirs sous surveillance parce que c'est des femmes noires qui prennent la parole de un. Donc, il y a quelque chose dans le fait de se raconter aussi qui permet cette construction de l'identité, une espèce d'affranchissement aussi
oui.
peut-être, une certaine agentivité même, je mm-hmm. dirais. Donc pour nous, il y avait une cohérence avec le fait de lancer ce livre-là au Salon du Livre.
Et cette voix de Mireille Metellus et
oui.
cet accent particulier
oui.
et cette... Ouf, on en écoute un bout.
L'esclavage s'est pratiqué au Canada pendant plus de deux siècles. Néanmoins, la plupart des écoles de ce pays n'enseignent ni les réalités de l'esclavage canadien, ni les multiples brimades infligées aux populations noires du Canada. Brillant par son absence dans l'enseignement, l'esclavage qui s'est pratiqué au Canada se fait aussi très discret dans la recherche. Le fait que la plupart des universités canadiennes n'ont pas de département d'études noires s'avère aussi particulièrement révélateur. Signalons l'exception notable d'un programme de mineurs en études de la diaspora noire et africaine ouvert en 2016 à l'Université Dalhousie. Trop peu d'historiens ont porté ou portent aujourd'hui un regard critique sur l'esclavage qui s'est pratiqué au Canada, et rares sont en définitive les Canadiens qui connaissent cette partie de leur histoire. Quand il arrive que l'esclavage canadien soit mentionné, ce qui est rare, il est généralement présenté comme un phénomène de peu de conséquences et de courte durée. Or, l'esclavage n'est jamais de peu de conséquences.
Oui, l'esclavage n'est jamais de peu de conséquences. Noir sous surveillance de Robin Ménard, lu par Mireille Metellus, maintenant disponible sur le site livreaudio.vusezvoix.com. On change de décor, de sujet complètement, oui. Avec la course des tuques, oui. Lu par nul autre que...
Hélène Bourgeois-Leclerc.
Qu'on adore.
Hélène Bourgeois-Leclerc qui interprète dans le film duquel est tiré ce livre-là, donc La course des tuques qui est en 3D, excusez-moi. Hélène, elle interprétait Les Lunettes dans ce film-là. C'est donc elle qui est venue faire la narration de La course des tuques. Et naturellement, parce que la fin novembre aussi, c'est le début des fêtes, on se disait que quoi de mieux que de lancer une course des tuques hivernale en ce moment de froid.
Dring! Il était temps. C'est la fin des classes. Nous serons en congé pendant 2 longues semaines. Et l'hiver, c'est le meilleur moment pour être en vacances. Du moins, c'est ce qu'on dit depuis toujours dans notre village. Hey, François, tu viens? Lui, c'est Pierre, mon meilleur copain depuis avant la maternelle. L'hiver dernier, Cléo, sa chienne, ou son autre meilleur ami, si tu préfères, est morte. Nous avons fait une guerre de neige épique dans un fort giga formidable, mon invention, bien sûr, mais nous n'avions pas prévu une telle fin. Pendant toutes ces vacances d'hiver-là, nous nous sommes disputés un fort de neige géant, à coups de bataille de balles de neige mémorables et plus encore. Au début, nous étions très excités, mais la guerre, même si nous pensions que c'était un jeu, ça reste la guerre. Au moment le plus intense de l'aventure, le fort s'est écroulé. Et Cléo s'est retrouvée ensevelie sous la neige. Pour mes amis et moi, ça a été la journée la plus triste de nos vies. Depuis, nous nous sommes jurés de rester amis pour toujours et de ne plus jamais faire la guerre.
Tout le monde est là, qu'est-ce qu'on attend? Plus tard, on n'aura plus le temps. 1, 2, 3, viens, on ira. Tout ce feu qui brûle en dedans, prends la main que je te tends, viens. Et ne t'en fais pas, on restera toujours ensemble. On se connaît, on se ressemble. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Oh!
Il va y avoir aussi comme des tablons, d'ailleurs aujourd'hui même, 21 déjà, si par hasard, pardon, je vais finir par le dire, vous êtes en train d'écouter l'émission le 21 avant 15h. Qu'est-ce qui se passe à 15h?
Courez au Salon du Livre. À 15h15, il y aura une table ronde autour d'expérimentation, autour d'un livre innovant, en fait. Donc, comment le livre innovant peut favoriser un accès à la culture, peut être un moteur d'inclusion. C'est une table ronde qui va être animée par Benoît Racette, qui travaille avec nous chez Vues et Voix, et qui accueillera notamment Suzanne Beaulieu, la directrice de la gang à Rambrou, et Mathieu Tessier, qui est un technicien formateur ici. Alors, le but, c'est vraiment de se demander comment le livre audio est un moteur d'inclusion, ce qui est notre mission principale à Vues et Voix.
Et là, tu me tends une perche, Marie-Ève, parce qu'en seconde partie aujourd'hui de cette émission, on va d'ailleurs parler du moteur en sociabilisation pour les enfants et en développement d'intelligence pour les mômes. Oui. On parle de la lecture à haute voix, donc fatalement aussi du livre audio. Ça, c'est pour la seconde partie. Ne manquez pas ça. Christine Michaud, lue par une voix, honnêtement, c'est parce que je sais que c'est elle qui lit, mais je ne l'avais pas reconnue, c'est Anne Casabonne. Le livre s'appelle « Il est temps de vivre », ça va également sortir au moment...
De vivre la vie que tu t'es imaginée.
Ah, « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée ». Oui. Ça veut dire une fille paresseuse qui n'a pas écrit tout le titre sur ma feuille de route, et la fille paresseuse, c'est moi.
Mais « Il est temps de vivre », ça aurait été beau aussi.
De quoi il s'agit exactement, ce livre de Christine Michaud, lu par Anne Casabonne, donc?
C'est une histoire intergénérationnelle. Oui. C'est donc l'histoire de Corinne qui descend jusqu'en Floride sur les traces de sa grand-mère Franny. Franny qui a l'air d'avoir été une espèce d'hippie libertine un peu et qui a donc ce passé-là que Corinne semble connaître mais pas connaître. C'est le rapport à la transmission, naturellement, ce qui passe à travers les années, mais aussi encore et toujours, j'y reviens, à la construction de l'identité. Par la mémoire, par cette espèce de lignée de femmes-là qu'elle va retracer. C'est un roman très feel-good, si je peux me permettre.
Oui, oui.
Christine Michaud fait beaucoup de travaux sur le bonheur, sur comment y accéder. Et donc, c'est ce parcours-là qu'elle a ici traduit dans la fiction à travers le personnage de Corinne.
Oui, elle fait dans le psychopop ce que j'appelle intelligent, c'est-à-dire
oui.
bien fait. Et alors, ben écoutez, dites-moi, vous, si on vous avait fait écouter cet extrait-là, est-ce que spontanément vous auriez dit « Ah ben oui, c'est Anne Casabonne ». Eh bien, c'est elle.
Sur le bureau, on dirait qu'une boîte antique tout en métal ornée de jolis motifs fleuris m'attend. Posée là, au beau milieu du plan de travail, elle semble m'appeler ou, dit plus justement, elle me magnétise et m'attire jusqu'à elle. Je remarque une inscription gravée sur le couvercle. « Live the life you love. Vis la vie que tu aimes. » Je glisse quelques doigts sur la surface lisse, hésite quelques secondes, puis décide de l'ouvrir. Je pousse un petit cri de surprise. Il repose une belle enveloppe crème avec mon nom, calligraphié, comme sur l'affichette tendue plus tôt par Diego. Je la pince du bout des doigts, comme si étrangement je manipulais une feuille extrêmement délicate. Je découvre, au fond de la boîte, ce qui ressemble à un mobile, un truc artisanal fabriqué d'un bout de bois duquel pendent des cordes avec des perles, des plumes et des fleurs. Plutôt joli comme bricolage. Intrigué, j'ouvre précautionneusement l'enveloppe en quête d'une explication. « Ma chère Corinne, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'ai toujours cru qu'il valait mieux être prévoyante dans la vie et clairvoyante, mais ça, c'est un autre sujet dont j'aurai l'occasion de te reparler. Plus je m'approchais de mon 100e anniversaire, plus mes chances de demeurer dans cette incarnation physique s'amenuisaient. Il fallait bien se rendre à l'évidence. J'étais convaincue que c'était à toi que je devais écrire. Et je dois avouer que secrètement, je l'espérais, car j'avais un cadeau à te remettre. Parce que oui, c'en est un, celui que je souhaitais t'offrir depuis plusieurs années déjà, celui que j'ai essayé de te donner à plusieurs reprises, mais je jugeais que tu n'étais pas encore prête pour l'accepter. Ce présent est le courage. »
Anne Casabonne lisant ce livre de Christine Michaud, dont mon amie Marie-Ève va vous rappeler tout de suite le titre.
« Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée », publié chez Édito.
Publié chez Édito, et oui, Erwan le seul, hein, il fait tellement de belles choses. Erwan, il est venu aussi à l'émission pour nous en parler.
Le seul et l'unique.
Oui, mais c'est vrai, mais il faut le noter, parce que parfois, les éditeurs ont mauvaise presse, on a l'impression que finalement qu'ils font rien, puis que c'est les auteurs qui font tout, puis que ça les fait vivre. Erwan est un type tellement proactif dans la...
Mais chez Édito, c'est une toute petite équipe, ils sont tissés serrés.
Ah, ils sont fantastiques et vraiment, on les aime. Et puis, bah, écoutez, à tout Seigneur, tout honneur, bon, c'est vrai que j'ai travaillé là-dessus, j'aimerais... Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est moi qui l'ai réalisé, cette affaire-là, mais c'est la fin d'une belle aventure qui va être célébrée ce soir, si vous écoutez l'émission, le 21 novembre, à compter de 18h15. C'est un lancement public et c'est le lancement de Les Belles Sœurs, l'œuvre qui a tout changé de Mario Girard. Comme je vais sûrement le dire d'ailleurs ce soir, quand je vais animer cette soirée-là, pour en arriver là ce soir, il a fallu d'abord un auteur génial, un metteur en scène génial. Je parle évidemment de Tremblay et Brassard. Je parle d'une idée qui a fécondé dans les bureaux de la presse. Et je parle d'un journaliste, Mario Girard, qui a fait des recherches incroyables. Et puis, je parle d'une trentaine de témoignages de personnes dans ce livre, dont 26 ont accepté quasi... amicalement pour la plupart, de venir enregistrer ces mots-là. Donc aujourd'hui, ça nous donne un livre audio qui est une espèce de...
C'est un documentaire.
C'est un documentaire et c'est un document qui, je pense, va rester historique parce que c'est l'occasion de réentendre, entre autres, la première lecture du 4 mars 1968. Alors, il en est question dans le livre, mais là, on l'entend. On entend Denise Filiatreau qui reprend pour nous à 88 ans dans le petit studio où on enregistre les mots du rôle, des rôles qu'elle avait endossés, Pierrette Guérin, Rose Ouimet, tout ça. On entend des gens fantastiques comme Robert Lepage qui ont fait le déplacement. On entend les mots de Mario Girard qui a tellement fait de recherche avec son équipe pour créer ce bouquin-là, qui est déjà au départ un très beau bouquin sur papier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je trouve que la dimension audio là apporte encore une fois une dimension historique, un témoignage qui va rester après la disparition des Michel Tremblay, le plus tard possible, s'il vous plaît, bien sûr, mais... Denise Filiatreau et Michel Rossignol qui participent aussi, eh bien, leur voix va demeurer. Oui. Et ça, ça me semble important. Et je vous propose, Marie-Ève et tout le monde, qu'on entende un petit peu ce que j'ai appelé, moi, la bande-annonce sonore.
C'est comme ça que je l'ai promu. Appelons-la comme ça.
Appelons-la comme ça. Des Belles Sœurs, l'œuvre qui a tout changé de Mario Girard.
Vues et Voix et les éditions La Presse présentent Les Belles Sœurs, l'œuvre qui a tout changé, de Mario Girard.
J'adore ce bingo.
Le surlendemain, je prenais l'avion pour Montréal. En effet, Brassard venait d'obtenir du Centre d'essai des auteurs dramatiques, le CEAD, l'invitation d'organiser une lecture publique de la pièce.
Lundi soir dernier, le Centre présentait la lecture d'une pièce en trois actes d'un jeune auteur montréalais, Michel Tremblay.
Tu devrais voir ça, c'est brillant. Je pense que je vais pouvoir tout prendre ce qu'il y a dedans. Je vais tout meubler ma maison neuve. Je vais avoir un toit, un frigidaire, un set de cuisine, hein? Je vais avoir des chaudrons, une coutellerie, un set de vaisselle, salière, poivrière, des verres en verre taillé avec le motif caprice.
Les gens disaient, c'est quoi cette horreur-là? Vous n'avez pas honte de diffuser ça?
Michel Tremblay, l'homme qui sait mieux que quiconque parler à l'oreille et au cœur des comédiennes pour leur raconter leur univers de femme.
Tu me désappointes bien gros!
Mercedes Palomino tient à s'assurer de la présence de Denise Filiatreau dans cette production afin d'attirer le public.
Il n'y a rien de Johnny qui comptait pas moi. Il m'a fait perdre 10 ans de ma vie, le Christ. J'ai rien que 30 ans, puis je me sens comme si j'en aurais 60.
Je parle comme je peux, puis je dis ce que j'ai à dire, c'est tout.
Je suis Guylaine Tremblay. J'ai lu Les Belles Sœurs dans ma chambre d'adolescente. Ce jour-là, j'ai compris que nous avions le droit d'être magnifiques. C'est un grand cadeau que tu m'as fait. Merci, Michel.
Narration, Mario Girard. Réalisation, Clotilde Seille. Musique, Daniel Bélanger.
La culture de mon pays vient de se lever et le monde entier prête l'oreille. Surtout la mère patrie.
Ce soir, sur scène, sur la Grande Place, encore une fois, le 21 novembre, au moment où est diffusée pour la première fois cette émission des Livres Pleins les Oreilles, il y aura bien sûr Mario Girard, l'auteur, il y aura bien sûr aussi Michel Tremblay et les comédiennes Marie-Thérèse Fortin, Muriel Dutille, Diane Jules et Lorraine Pintal qui vont venir vous faire un petit segment de lecture de quelques minutes d'extrait des Belles Sœurs. C'est à ne pas manquer. Tiens, allons-y, puisque la musique de Daniel Bélanger est utilisée dans ce livre audio. Écoutons le tout début de la pièce « Belle-sœur, le théâtre musical ».
Imaginez-vous donc que j'ai fini par trouver les 8 erreurs dans le journal du mois passé. J'ai décidé de participer. J'ai décidé de participer.
Qui a fait gagner quelque chose?
J'ai-tu l'air de quelqu'un
qui a déjà
gagné quelque chose? J'ai-tu l'air de quelqu'un
qui a déjà
gagné quelque chose? Quelqu'un
qui a déjà
gagné quelque chose, gagné quelque chose.
Ah! Oui, aussi j'ai concouru pour le slogan mystère. Il fallait trouver comme un slogan pour la librairie. Achète, ça fait que j'ai trouvé, ça fait que j'ai trouvé. Achète bien qui achète, j'ai acheté.
Oui, avez-vous gagné quelque chose?
Quelqu'un
qui a déjà
gagné quelque chose. J'ai du mal de quelqu'un
qui a déjà
gagné quelque chose. J'ai du mal de quelqu'un
qui a déjà
gagné quelque chose. Gagné quelque chose.
Oh, moi j'ai découvert la voix mystérieuse aux radios. C'était la voix à Duplessis. J'ai envoyé 25 lettres. Puis pour me porter chance, j'ai mis nom de mes 5 enfants.
Quelque chose.
J'ai-tu l'air de quelqu'un
qui a déjà
gagné quelque chose? J'ai-tu l'air de quelqu'un
qui a déjà
gagné quelque chose? J'ai-tu l'air de quelqu'un
qui a déjà
gagné quelque chose? Gagné quelque chose.
Ah! Moi j'ai envoyé mes réponses aux objets grossis, les affaires posées de proche, proche, proche.
Alors, c'est ce soir le lancement, mais écoutez, le livre audio est déjà disponible depuis le 16 novembre dernier. C'est une exclusivité que vous pouvez trouver sur la plateforme Apple Books. Et sachez que si vous désirez vous procurer le livre audio jusqu'à la fin du Salon du Livre et au Salon, vous pourrez vous le procurer avec un gros, gros rabais parce que hein, oui. Il sera à combien, là?
Il sera à 29,99 au lieu de 39,99.
Et ça, c'est un cadeau à faire à Noël, les amis, oui. Là.
Parce même que... Germaine Lauzon n'aurait pas hésité.
Merci beaucoup, Marie-Ève. Marie-Ève Grou. C'est toujours un bonheur de partager le studio avec toi. Merci à toute l'équipe de Vues et Voix pour l'excellence de leur travail qui permettent la production de ces livres audio-là qui, je le rappelle, vont être, s'ils ne le sont pas déjà au moment où on se parle, tous accessibles pour les personnes qui ont des difficultés de lecture, quelles qu'elles soient. Voilà. On se retrouve, nous, dans quelques minutes avec Patrice Cocro. Merci Marie-Ève.
Grand plaisir.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors pendant durant cette seconde partie, je vais recevoir Patrice Cocro, qui est d'ailleurs déjà là, qui nous a pondu il y a quelques années un bouquin qu'il est venu enregistrer ici, chez Vues et Voix. On va beaucoup parler d'anxiété et de rire. Et oui, ça peut aller ensemble, et c'est comme un petit peu un train qui peut en cacher un autre. Ce que j'ai compris, moi, dans ce bouquin-là, c'est que le rire peut cacher l'anxiété, et l'anxiété peut cacher le rire. Je me trouve tellement brillante dans ça.
Je crois que tout a été dit, je vais y aller.
Ça m'a fait plaisir, Patrice. Et puis, je vais aussi m'entretenir avec Marie Barguirdjian, qui est autrice et qui a lancé avec d'autres auteurs un manifeste. En fait, le manifeste sera lancé au Salon du Livre. Elle va nous en parler. C'est un manifeste qui porte sur le côté essentiel de la lecture pour nos jeunes, qu'elle soit d'ailleurs à haute voix ou à basse voix, mais la lecture, l'histoire. Voilà. Alors, un petit jingle et je me tourne vers mon ami Patrice. J'aime bien commencer avec une des phrases de la fin d'un livre, Patrice Cocro. Mm-hmm. Ce livre, il me fait déjà son regard. Le livre s'appelle « Guérir à gorge déployée » et l'une des phrases, moi, c'est « Je me suis réveillée avec la peur au ventre ». Pouf!
Oui, oui.
Vous parlez de vous bébé, là.
Ah oui, oui. Mais je suis né la peur au ventre, en fait.
C'est ça.
Né
la peur.
Oui, parce que quand ma mère est tombée enceinte de moi, elle a eu peur de me perdre comme mon frère qui m'a précédé, que je n'ai pas connu, qui est mort à l'âge de 6 mois. Et donc, j'ai absorbé littéralement cette crainte omniprésente, cette épée de Damoclès qui était constamment au-dessus de ma tête. Alors voilà, donc j'ai absorbé ça.
Alors, on assiste à l'enfance et à l'adolescence, au tout début du livre, de cet enfant bon, qui n'est pas épargné par des épreuves, mais en même temps, qui est loin de certains et de certaines destinées tragiques, on s'entend. Et oui. Pourtant, il y a cette peur dont vous parlez au tout début, cette peur qui vous tenaille, qui se transforme à un moment donné en anxiété profonde.
Oui.
Ça arrive un petit peu comme le mal de vivre de Barbara, ça ne prévient pas, ça arrive, ou ça a pris un élément dans votre cas majeur.
Le juin, en 1983, j'ai très très mal réagi au THC, donc c'était... En fait, j'étais déjà une bombe sur deux pattes et c'était l'élément déclencheur. Là.
Quand vous dites... Enfin, est-ce qu'on peut se tutoyer, Patrice?
Ben oui, on va certainement pas faire semblant. D'ailleurs, je me demandais pourquoi est-ce qu'on se vous voyait.
Bon. mais dis-moi, oui, mais quand tu dis que tu étais une bombe sur deux pattes, qu'est-ce que tu veux dire?
C'est-à-dire que j'étais chargé de toute cette inquiétude qu'il y avait dans le milieu familial. J'avais absorbé ça, peut-être dans un désir inconsciemment de vouloir sauver ma mère ou que déversez-vous sur moi, je vais vous sauver, je vais vous alléger. C'était peut-être un réflexe comme ça inconscient. Mais j'étais chargé de toutes ces inquiétudes, de toute cette obsession du détail que mes parents portaient, parce qu'ils ont, bon, ils ont connu la guerre, ils ont eux-mêmes eu leurs propres difficultés. Mais le joint a été un élément qui a fait...
Il t'est arrivé comment dans les mains, celui-ci? Le premier?
C'était pas le premier joint. C'était pas le premier, mais j'étais seul chez moi, j'écoutais de la musique, le casque sur les oreilles, et puis...
Tu te souviens ce que c'était, non? Ce joint?
La musique, je me souviens pas.
Non, en tout cas, je...
Mais... Et puis, j'ai senti qu'une catastrophe allait se produire et effectivement, le plancher s'est ouvert sous mes pieds, là, littéralement, j'ai eu cette impression-là. Et palpitations, sueur froide, je me suis dit, bon, est-ce que je souffre, est-ce que je fais une crise d'épilepsie, est-ce que je meurs, est-ce que je deviens fou, est-ce que, bon, peu importe. Ouais. Et donc, ma vie telle qu'elle était, il y a eu un avant et un après. Alors, tous les référents initiaux avaient disparu complètement.
Tu révèles avec beaucoup d'honnêteté, d'ailleurs, Patrice Cocro, les multiples dépendances lesquelles tu es passé. J'en parle parce que t'en parles. Et je me disais à certaines pages, je me disais que ces dépendances t'avaient certainement sauvé la vie, à moins qu'elles t'aient enlevé une partie de la vie. À certaines pages, je me dis, il y a une chance qu'il les a eues, sinon il serait mort.
C'était à la fois des béquilles, des outils, ça me permettait de... C'était un point d'appui extérieur, mais ça m'a à la fois aidé et bousillé aussi. Ouais, en fait, il y avait beaucoup de sabotage là-dedans aussi.
En page 58, je vais aller chercher le bouquin parce que tu vas peut-être remarquer que j'ai quelques petites cornes comme ça. Je suis désolée, j'étais tout corné, j'étais tout salopé ton bouquin. Je te lis, Patrice. Quand j'étais enfant et que je voulais manifester un désaccord, ma mère m'avait déjà dit ne réplique pas. Plus tard, je fis le lien. Le métier d'acteur m'attirait entre autres en raison du fabuleux outil de communication qu'il donne, la réplique.
Oui.
Autrement dit, ça fait longtemps que ça te tient, ça.
Absolument, tout à fait. Donc, le désir de communiquer, de partager, de rendre fluide ce qui est bloqué, ça fait partie de ma mission de vie, littéralement, de rendre ça fluide, la clarté, la transparence, le désir de partage, d'échange, et d'enlever le vernis ou tout ce qui occulte la vérité ou la mémoire, la charge, parce que c'est ce qui m'intéresse, moi. Le reste, je suis dans un métier d'image, paradoxalement, mais en même temps, ce qui m'énerve le plus, c'est quand on est axé essentiellement sur les convenances, l'image,
le paraître,
le contenant et tout ça, je m'en lasse très rapidement.
Oui. Mais pourtant, l'homme de communication, il y a un moment donné un chapitre, ou du moins un long paragraphe, qui est consacré à l'acteur à la gorge serrée que tu étais.
Oui.
C'est épouvantable, ça.
Ah oui, j'étais complètement coincé parce que je suis né... par le siège, le cordon autour du cou, 24 heures d'accouchement. En fait, j'étais complètement coincé.
Un beau gosse comme toi.
Ah, ben oui. Puis, il y a des gens qui me disent souvent, mais comment t'as fait pour devenir acteur? Puis, ouais. J'ai dit, mais je suis allé là exactement où ça me dérangeait le plus. En fait, c'était initiatique. Je suis allé me mettre devant des gens, puis avec des spots et tout ça, mais exactement pour confronter mes peurs.
Le rire t'a sauvé la vie. Oui. Tu le dis, tu l'écris. Mm-hmm. C'est pas juste une image, là. C'est la réalité.
Oui.
Est-ce que c'est devenu une dépendance?
Ben, en fait, ça, c'est salutaire, c'est organique, c'est naturel. Puis le rire donne une perspective, une mise en perspective, et donc du recul de l'espace. Et l'anxiété. Les gens qui nous écoutent puis qui en vivent le comprennent. L'anxiété, c'est de l'encombrement, donc une agitation mentale, l'encombrement d'objets, de relations, d'idées. Alors, on étouffe, on est oppressé. Alors,
d'ailleurs, tu t'es rendu compte que c'était souvent en vase clos que ça commençait.
Exactement, comme un rappel de ce que j'avais vécu dans le ventre de ma mère.
C'est ça fait peur. La première fois, quand tu racontes ça, tes premières crises...
Ouais.
Déjà tout petit, quand tu disais à tes parents « j'avale des montagnes » parce que tu te réveillais, tu faisais des cauchemars, il avait l'impression qu'il avalait des pierres.
Oui, que je les recrachais.
Qu'il les recrachait. Oui. Et c'est parce que les gens qui... Si vous n'êtes pas sujet à des crises, là, vous vous dites « mais de quoi parle-t-il ?» Mm-hmm. Si vous êtes sujet... Je t'ai invité aussi, Patrice, encore une fois et encore une fois, tu as fait beaucoup d'émissions depuis ta marche de cet été, mais c'est tant mieux. Il faut qu'on te voit plus, parce qu'il y a la solitude.
Ouais.
Il y a une solitude terrible chez les gens anxieux, parce qu'ils ont l'impression que... qu'ils sont, je sais pas, simplement, fiche-toi un petit coup de pied aux fesses, puis ça va aller mieux.
C'est plus que de la solitude, c'est de l'isolement.
C'est de l'isolement, hein.
Puis il y a beaucoup de gens, en fait, la chose la plus difficile, c'est de faire le premier pas pour oser en parler et s'affranchir de ces limites-là, parce que ça, il faut toujours faire un premier pas pour s'affranchir d'une limite.
Est-ce que c'est ce que tu leur dis?
Oui, oui, absolument.
La première fois que tu rencontres ce que tu leur dis, parle-en, dis-le.
Dis-le à ton entourage et tout ça. Mm-hmm. Il existe des outils, des ressources pour nous aider. Donc, c'est sûr que le premier pas, c'est le plus difficile à faire. Puis, parce qu'on est dans une ère d'étiquette, de stigmatisation, de comparaison et tout ça. Donc, mais sachez-le, parce que c'était encore durant la marche de 570 km que j'ai fait de Longueuil à Rimouski, ça m'a été confirmé encore une fois. L'anxiété touche tout le monde à différents degrés, bien sûr, mais tout le monde a des inquiétudes, veut être aimé, veut se réaliser, tout ça. On est vraiment tous reliés fondamentalement, tous les êtres humains.
On va en écouter un extrait de ce livre, « Guérir à gorge déployée », lu par toi-même.
Le besoin de raconter ce que j'ai vécu et les prises de conscience qui en découlent sont au cœur de mon histoire personnelle. À ma façon, j'ai traduit ce mal de l'âme. Cette histoire de guérison pourrait s'apparenter à un film ou à une pièce de théâtre avec personnages, scénarios et décors. Si la trame principale est dramatique, voire tragique par moments, ma capacité de rire et de m'amuser a été extrêmement précieuse pour supporter ces épreuves. Sans l'humour, j'aurais pu devenir fou ou, qui sait, me retrouver 6 pieds sous terre. Pour en avoir parlé à beaucoup de monde d'horizons divers, je sais aujourd'hui qu'énormément de gens souffrent de troubles anxieux. Il y a plus de détresse qu'on pense dans notre société. Les troubles psychologiques et les problèmes de santé mentale sont courants. Il semble que le sujet soit encore extrêmement tabou. Dans bien des familles et des milieux de travail, la crainte de l'étiquette négative et de la stigmatisation impose le silence et fait des ravages. Je considère essentiel de livrer mon témoignage. J'ose espérer que cet ouvrage sera utile. N'étant ni docteur, ni psychologue, ni spécialiste, je suis néanmoins convaincu que je peux aider des personnes à mettre de l'ordre dans le chaos qu'elles vivent. Tout être humain aux prises avec l'anxiété doit trouver les moyens qui lui conviennent pour aspirer à recouvrer la sérénité.
Et j'ai choisi ce passage-là parce que, honnêtement, Patrice, avant même qu'on se côtoie un petit peu plus, moi, la première image que j'ai de toi, c'est celle d'un fou rire.
Ben oui.
On dit Patrice Cocro, et je suis sûr que je suis pas la seule, on revoit entre autres la scène de l'hôpital avec Marc Labrèche.
Ben oui.
Non mais ça c'est c'est infernal.
Oui.
Mais qui pourrait penser à ce moment-là
que
tu as vécu ce que tu as vécu avec l'anxiété, que c'est parce que comme je le disais dans mon introduction, est-ce que c'est l'anxiété qui cache ou qui provoque le rire et
vice-versa. Le rire est un exutoire. Mais comme quoi, on vit tellement dans une ère où l'image a une importance démesurée que je l'ai dit cet été, puis je le répète, pour moi, les gens que je côtoie maintenant, ce sont des livres dont on ne voit que la couverture. Et puis toute l'histoire, la mémoire, les stigmates et la charge se trouvent derrière, en fait, toute l'histoire. Et c'est ça. Donc, une personne ne se résume absolument pas à son image, à son enveloppe.
C'est fou parce que je recevais il y a quelques semaines Nicole Bordelot, qui s'est commise à écrire un premier roman, parce que bon, elle nous a habitués à des livres très sérieux sur le bon, entre autres sur le yoga, sur la respiration, sur le souffle de la vie. C'est une bonne femme vraiment géniale. Et là, elle a rédigé un bouquin sur l'héritage familial.
Okay.
Donc, sur l'histoire d'une jeune femme dont on découvre l'héritage familial au-dessus d'elle et on comprend mieux tous ses comportements, notamment sur ses dépendances. Et vous en avez vécu. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dépendant à rien.
Non, c'est pas vrai. Je suis beaucoup moins dépendant. Non. J'ai fait beaucoup, beaucoup de ménage et je me suis beaucoup affranchi.
Vous êtes un bon gars. Plus d'alcool, plus de tabac.
Non, j'ai couru la galipote et tout ça. Non, j'ai été très dépendant. Aujourd'hui, je suis affranchi, je suis libre, littéralement.
Complètement. C'est-à-dire que parce que souvent, on entend dire, par exemple, des personnes alcooliques, qu'ils le seront toujours.
Oui.
Vous, non?
Non, je pense, non. Pas non. Du tout, non.
Terminé.
Non. Oui.
Bravo.
Oui.
Il s'appelle Patrice Coquereau. Lisez son bouquin. Offrez-le même à Noël. Guérir à gorge déployée. En plus, on retrouve certaines scènes d'ailleurs où vous avez déliré avec des bons copains à vous. Je pense à comment il s'appelle, Isabelle Vincent, aussi, qui est beaucoup dans votre vie.
Qu'il a été beaucoup.
En tout cas, lisez ce bouquin de Patrice Coquereau. Merci.
Merci Clotilde.
Beaucoup. On a été sérieux. On a quand même un petit peu rigolé. Au départ, il a essayé de m'avoir. Il m'a fait cette espèce de regard qui faisait à la brèche en disant toi, je vais t'avoir. Et ben, tu m'as pas eu. Merci Patrice.
Merci
beaucoup.
Clotilde. Merci.
Monsieur Oliver Jones au piano et à côté de moi, une autrice. Il faut que je vous raconte cette histoire. Moi, généralement, j'aime bien prévoir qui sont mes invités. J'aime bien travailler beaucoup, profondément. J'aime pas, comme tous les animateurs et animatrices, on n'aime pas on aime être au courant des choses. Eh bien là, je vais en apprendre autant que vous. Au moment présent, grâce à Marie Lalande. Marie Lalande, c'est une autre Marie que celle que je reçois aujourd'hui, que je vais vous présenter dans quelques secondes. Marie Lalande est une bénévole ici. Vous connaissez sa voix, vous connaissez son nom si vous êtes des fidèles de cette radio Canal M. Et Marie m'écrit un petit mot en disant « Écoute, faudrait que peut-être à ton émission qu'il serait bien que tu parles de Marie Barguirdjian, voilà, qui signe le manifeste « On a tous besoin d'histoire
oui. ».
C'est bien ça. Bonjour c'est Marie.
Bonjour,
maintenant
merci
que j'ai
de
dit
recevoir.
Une fois votre nom, ben, je vous en prie. Et là, je me suis dit « Ah non, non, il faut qu'on en parle, il faut que je sache. » Alors, qu'est-ce que ce oui. manifeste qui sera lancé au moment
du Salon du
D'accord.
Livre, exactement le 23 novembre, d'ailleurs, à 16h, à la Seine Jeunesse.
Ah, d'accord, à la Seine Jeunesse.
Avec le docteur Chicoine, avec oui. Des auteurs, des comédiens d'ailleurs, Adrien sera là, Adrien Bléton,
oui.
Sophie Cadieux, etc., Simon Boulris.
Qui sont venus enregistrer le livre en audio,
exactement.
Parce que c'est aussi pour ça que je vous reçois, parce que maintenant, ça y est, il est disponible sur le site livreaudiovusezvoix.com.
Voilà. Et parce que Vues et Voix est devenu un partenaire. C'est une initiative citoyenne, on va dire ça, pour ouais. lancer un mouvement citoyen. Parce que après 30 ans d'expérience, de travail avec les enfants, avec les milieux éducatifs, d'être très proche des familles, etc., je reste un peu décontenancée par le fait que cette littérature jeunesse n'a jamais été aussi belle, aussi foisonnante. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'on a formé une société de culture et de lecteurs. Donc il y a un hiatus ici qui m'étonne, qui m'énerve, qui me révolte. Je trouve que c'est un scandale culturel quelque part. Ouais. Ça veut dire qu'on réfléchit peut-être pas très bien à la façon dont on fait les choses. Donc on veut donner des livres, puis on veut faire consommer du livre, c'est bien. Mais c'est pas pour ça qu'on forme des lecteurs. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ou on ne fait pas bien passer le message peut-être de la nécessité qu'on a de la lecture. Après tout, on n'est pas des singes bonobos, hein.
Mais non.
On est fait de verbes, de mots, d'imaginaire.
Ouais.
Et tout ça se retrouve dans les livres, dans les histoires qu'on perpétue, comme celle de votre invité précédent, éprouvé la nécessité d'écrire son histoire. Ce sont des histoires de fiction, ça peut être toutes sortes de choses, d'autofiction, et ça peut être des histoires racontées autres que la littérature. Mais enfin, la littérature, c'est quand même comme l'art, c'est ce que l'homme a inventé de plus beau pour transmettre, s'exprimer, communiquer les uns aux autres.
Mmh.
Alors, il y a ça d'une part, et il y a aussi ma petite révolte à moi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, la place des tablettes, etc. Et attention, entendez-moi bien, je ne suis pas contre tout ça.
Non,
parce que souvent, on va me rétorquer, ça veut dire que t'es contre. Non, mais un enfant a d'abord des besoins humains. Avant d'avoir une tablette dans les mains, il a d'abord besoin d'avoir un humain à côté de lui, son papa, sa maman, son grand frère, son frère, sa sœur, etc. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Et quand il va avoir l'âge de lire sur une tablette, on lui donnera une tablette. Mais il y a ça, puis il y a ce vocabulaire réduit dans les textos. Donc, je m'inquiète un peu parce qu'on rétrécit un peu notre champ de vision du vocabulaire et de la façon de nous exprimer. Alors, s'il y a une chose extraordinaire dans laquelle on peut puiser sans fin, c'est la littérature.
Mmh.
Donc soutenons ce travail qu'on a à faire avec les enfants. Alors c'est sûr que tous les enfants adorent les histoires. Je n'ai jamais rencontré d'enfant qui n'aimait pas qu'on lui raconte des histoires ou qu'on lui lise des histoires. Mais il se passe quand même un drôle de phénomène après 8-9 ans, il décroche. Alors on dit, oh, c'est pas grave, il regarde des bandes dessinées, comme si la bande dessinée était un sous-genre d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas du tout. Ou il lit quand même des magazines, tout ça. C'est quand même pas pareil que de lire un texte littéraire. Alors à mon avis, les décrocheurs scolaires aussi, c'est à cause de ça qu'on les perd. Parce que si on ne soutient pas ce travail, cette petite exigence, parce qu'il faut quand même dire les mots, quoi. Il y a une exigence
Absolument,
à lire du littéraire,
c'est vrai.
On n'arrivera pas à former des gens. Et c'est surtout si on ne leur fait pas comprendre pourquoi on a tant besoin d'histoire. Dans ce manifeste, il y a 14 entrées. On a besoin d'histoire parce qu'on a besoin des autres. On a besoin d'histoire parce qu'on a besoin de mettre des mots sur nos émotions.
Mmh.
On a besoin d'histoire parce qu'on a besoin de transmission, parce qu'on a besoin de découvrir un sentiment de liberté, parce qu'on veut prendre des risques, transgresser les choses. À travers les textes, c'est tout ça qu'on fait.
Mmh.
Donc il y a 14 portes d'entrée qui, je l'espère, vont peut-être motiver les adultes qui s'occupent des enfants à leur faire comprendre l'importance de la lecture et de la place de la fiction dans leur vie et faire comprendre aux enfants eux-mêmes que c'est important de lire et c'est beau, ça peut vraiment les amener à se dépasser parce que c'était intéressant, il y avait Nancy Hewson a écrit L'espèce fabulatrice, un livre extraordinaire qui m'avait beaucoup marqué. Puis c'est vrai, au début elle raconte qu'elle est avec des gens en prison, des femmes qui lui disent mais enfin nos histoires sont tellement énormes, je me demande pourquoi vous avez besoin d'écrire des romans. Mais c'est toute la question, en fait. C'est la littérature, ça sert à dépasser, justement, la réalité, à nous emmener beaucoup plus loin dans nos émotions, dans nos projections. Alors, elle est utile, parce que c'est comme ça que l'homme rêve.
Bien sûr.
Qui s'en rêve.
Mais oui, absolument.
On peut retourner dans nos grottes.
Marie, vous êtes vous-même autrice. Oui. Vous aimez ce vocable?
Je m'y fais, comme tout le monde.
On a du mal.
Auteur,
Moi, j'aimais ça, moi. Mais bon, alors donc, vous êtes autrice, vous avez écrit beaucoup, justement, pour les enfants.
Pour les enfants, beaucoup de livres sur l'art, en fait, parce que mon premier métier, c'est la musique et l'art.
OK.
Alors, tout ça a un lien, évidemment, puis... c'est drôle, quand on fait les choses au fur et à mesure de sa vie, on comprend hein, le gros casse-tête de la vie qui s'ajuste. Et puis, j'avais un professeur de piano qui me disait toujours sur mes pianos d'inventer des histoires. Alors, j'ai toujours inventé des histoires. J'étais dans une famille assez bruyante où j'aimais bien m'isoler pour me raconter des histoires. Puis aujourd'hui, j'y raconte aux enfants.
Comment on peut attirer un môme qui ne l'est pas parce que dans sa famille, malheureusement, il n'y a pas de bouquins qui traînent? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors ça, c'est une grande question, Clotilde, et c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, varier le plus possible tout ce qu'on peut lui mettre entre les mains. Moi, j'ai eu 4 enfants et j'ai 2 de mes enfants qui sont pas des bons lecteurs. En tout cas, j'en ai un qui était vraiment rebelle à la lecture. Et je persévérais. Et un jour, le hasard a fait que je lui ai mis un petit roman dans les mains. Puis il est remonté fièrement en me disant « Mais je l'ai lu !» C'est pas pour ça qu'il est devenu un très grand lecteur. Non. Mais il a compris qu'il pouvait le faire. Ouais. Que c'était à sa portée. Bon, déjà, il faut varier. Faut que les livres sortent peut-être aussi des murs des bibliothèques et peut-être des murs des librairies, qu'on trouve des moyens que la culture et la lecture soient accessibles partout. Par exemple, dans le manifeste, à la fin, je fais des demandes, je dis « agissons, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée ?» Quand je suis allée, j'ai pas dit que c'était en Suède que j'avais vu ça, mais je suis allée me balader en Suède, dans certains bus, il y avait des livres qui étaient suspendus avec des gros ressorts, des livres pour les bébés, des petits cartonnés.
C'est génial.
Les mamans s'asseyaient, rentraient dans le bus, hop, elles tiraient du plafond un livre. Donc la lecture était à portée de main. Donc peut-être dans les centres commerciaux, je ne sais pas moi, il y a certainement moyen. J'ai écrit à la STM pour faire de l'affichage, des extraits de livres dans les bus. Donnons la lecture et la culture à portée des gens. Il y a encore des gens qui n'osent pas aller en librairie, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres. Donc on a qui n'osent pas aller en bibliothèque. Alors, il y a peut-être des choses à faire. Très simple, c'est pour ça que je dis que c'est un mouvement citoyen que je veux initier. Et j'espère qu'il sera suivi.
Et vous n'êtes pas seule hein, dans cette aventure-là. Je vois des noms, évidemment, que l'on connaît bien. Joséphine Bacon, hélas, Simon Boulris, Élise Gravel et tant d'autres et tant d'autres.
François.
Et puis tous ces gens qui sont venus pour lire le livre audio. Je pense à Sophie Cadieux, Simon Boulris, Yves Deslauriers, Adrien Bléton, votre garçon. Marie, vous-même, vous avez lu
le manifeste.
Et puis Eliane Préfontaine. C'est gros comment? Parce que là, les mains.
On l'a même c'est, pas, non, on a c'est hâte. Ça, c'est un petit livret d'une cinquantaine de pages et qui est ponctué de citations et d'illustrations que des illustrateurs jeunesse m'ont offert pour le manifeste. Donc ça va être très joli en plus à voir.
Mais de vous à moi, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un manifeste genre obligatoire partout. Non, mais c'est vrai
réussi à avoir une commandite de 8000 exemplaires gratuite. Donc, venez au Salon du Livre, on vous les donne. Partagez ça, ça va être en ligne sur pas mal de sites, dont celui de Communication Jeunesse. En ce moment, il est déjà en primeur sur le site de Communication Jeunesse, mais il va y en avoir d'autres. Et puis, si ça marche bien, on pourra peut-être en réimprimer.
J'ai accepté aussi de vous inviter, même si je ne connaissais pas cette mission que vous vous êtes imposée et qui est tellement fantastique, parce que je suis tombée cette semaine sur un papier dans Actualité où on nous disait qu'en Italie, 1500 élèves ont été sollicités âgés de 5 à 11 ans, issus de plusieurs villes italiennes. Pour les besoins de l'étude, les élèves se voyaient présenter la lecture à voix haute comme un moment de détente et de plaisir, autrement dit, pas de devoir en découlant ni d'interrogation sur ce qu'on leur avait lu. Et la première des conclusions, Marie, je ne vais sûrement pas vous surprendre, mais c'est que la réussite scolaire des bambins qui avaient eu une heure de lecture par jour, durant 100 journées, a été accrue de 10 à 20
10%.
Ah non, mais alors ça, j'y crois, mais à 300 000 fois.
C'est ça.
Parce que justement, les plus grands, admettons, qui décrochent vers 9-10 ans, qui, si on continue à entretenir le langage de l'écrit, parce que c'est ça la difficulté, hein, si on continue à entretenir ça et qu'au moins ils l'entendent par des voix, alors là, il continue à avoir ce sens du récit. Mmh. Puis je crois aussi que le manifeste veut qu'on aborde la littérature, en tout cas tout ce qu'on construit avec les enfants entre 0 et 12 ans, ça se perd pas. Et si on arrive à construire une relation au livre et donc à la culture par une poésie, par quelque chose qui n'est pas juste le scolaire, faire des devoirs, on aura gagné quelque chose. J'espère.
Merci beaucoup. Elle s'appelle Marie Barguerdian et elle a signé ce manifeste avec un paquet d'autres personnes qui sera lancé. On va rappeler son titre. Pardonnez-moi, je le cherche.
On a tous besoin d'histoire.
Merci beaucoup. Lancé le 23 novembre à 16h à l'espace jeunesse. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été
merci
là.
Merci à vous.
Je voudrais aussi remercier Marie-Ève Groux de chez Vues et Voix de m'avoir accompagnée en première partie pour faire le point avec nous sur tout ce que Vues et Voix va proposer au moment du Salon du Livre. Et je voudrais remercier Patrice Cocro qui est venu nous présenter son bouquin « Guérir à gorge déployée ». Venez nous rencontrer ce soir au Salon. Si vous écoutez cette émission le 21, je vous rappelle que c'est le lancement du livre audio « Les belles-sœurs, l'œuvre qui a tout changé ». Et c'est un monstre de bouquin auquel d'ailleurs Patrice Cocro a participé. C'était Clotilde Seil qui remercie Maurice Bolduc de l'autre côté en régie et qui vous remercie vous et qui vous dit bonne lecture.